rencontre sur Radio Orient.
Bonjour, vous êtes bien sûr Radio Orient, émission rencontre avec le président d'État Catholique en Tunisie, l'ancien ministre et médecin Khalil Ezaouia. Bonjour docteur.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Soyez le bienvenu. Alors vous serez interrogé aujourd'hui sur la situation politique, économique, sociale et sanitaire en Tunisie. Le 25 juillet dernier, le président tunisien Kais Saied révoquait le chef du gouvernement Hichem Mechichi. Suspendait le Parlement, s'arrogeait des pouvoirs exceptionnels. Alors, ces dispositions ont été, à l'époque, applaudies par une large partie de la population. La Tunisie vivait une crise politique et sanitaire sans précédent. Comment, le 25 juillet dernier, aviez-vous, à ce moment-là, apprécié ces dispositions?
Alors, le 25 juillet, on avait publié un communiqué. Disons que la situation d'avant le 25 était plus acceptable et que il y avait des manifestations. Il y avait eu même des manifestations le 25 au matin. Et on avait même appelé à soutenir ces manifestations. Et qu'on pensait que ce genre de décision pouvait provoquer un électrochoc et pouvait faire bouger les lignes, puisque on avait un gouvernement qui était un gouvernement incapable. On avait demandé depuis le mois d'avril le départ du gouvernement, et une coalition au sein du Parlement qui était dominée par Nahda et le parti Qalb Tounes, qui était une coalition sans programme, opportuniste, et qui n'a pas su gérer le Parlement, et notamment le président du Parlement, Rachid Ghannouchi. Et donc, ça a donné une très mauvaise image de la Tunisie, de la démocratie tunisienne, des libertés, et qu'il était temps que tout ça change.
Vous étiez optimiste
à ce
moment-là ?
On était un optimisme mesuré, on va dire. Parce que lorsque on a estimé que quand même le président de la République avait dérogé à la Constitution, et donc, lorsqu'on déroge à la Constitution, il faut qu'il y ait des motifs très forts. Il faut qu'il y ait aussi une feuille de route claire, participative, qui permette d'unifier le pays et de ne pas mener le pays vers l'inconnu. C'est ça le principe. On avait appelé à ça. Voilà. Malheureusement, ce qui a suivi... on n'a pas tenu compte de notre avis. Et actuellement, on est à plus de 100 jours de ces décisions qui sont aggravées par les décisions du 22 septembre, où il y a eu des décrets-lois 117 qui met entre parenthèses la Constitution en clair et qui permet au président de la République de s'arroger un double pouvoir exécutif et législatif.
Le régime aujourd'hui en Tunisie, comment vous le qualifiez, vous, monsieur le ministre ?
C'est un régime personnel. C'est le régime personnel. C'est comme ça. Le régime personnel ouvre vers la dictature.
En clair, il n'y a pas de parlement. Le parlement reste suspendu. Quel est le pouvoir aujourd'hui du gouvernement en Tunisie ?
Le gouvernement est très faible. Celle qui a été nommée chef de gouvernement, mais qui en fait
Najla Boudan Ramdan.
Oui, même pas un premier ministre, puisqu'on ne s'exprime pas, on n'entend pas, on ne sait pas ce qu'elle fait. Le chef de l'État convoque les ministres en son absence, et il lui arrive même de voir des ministres et de donner des instructions dans beaucoup de départements, et sans qu'elle soit présente, sans qu'elle soit même au courant. Elle n'a même pas encore nommé de chef de cabinet. Parce que vous avez vu un ministre, que dire d'un chef de gouvernement ou d'un premier ministre qui, au bout de plus d'un mois, n'a pas encore nommé de chef de cabinet qui gère le département. Donc c'est quand même assez étonnant.
Alors, quelles mesures attendez-vous aujourd'hui de la part du président de la République? Lui demandez-vous de convoquer le plus rapidement possible des élections législatives anticipées, bref, de rétablir le Parlement et de donner davantage de pouvoir à son gouvernement?
Alors, ce qu'on demande, c'est que d'abord la Constitution soit respectée, c'est fondamental, et qu'il y ait un retour en arrière par rapport au décret 117, Ce n'est pas acceptable qu'un président s'arroge tous les pouvoirs et qu'il engage carrément le pays dans une feuille de route claire. Cette feuille de route se base sur plusieurs principes. C'est d'abord le respect de la Constitution. Deuxièmement, annoncer des dates d'élections législatives qu'on pourra réussir. On ne peut pas faire des élections législatives dans 3 mois. Ce n'est pas possible. Ça va être des non-élections. Et donc, il faut changer toutes les lois qui réglementent la vie politique, la loi électorale, la loi sur les partis politiques, sur les médias. Parce qu'il y a aujourd'hui, vous savez que nous avons 3 télés qui ne fonctionnent plus, qui sont à l'arrêt. 3 chaînes télé qui sont à l'arrêt par des décisions de l'AEK. Bon, certaines n'ont pas respecté la loi, tout à fait.
La chaîne qui appartenait à Nabil Karoui, qui est l'ancien candidat à la présidence de la République.
Donc, ce n'est pas acceptable. Donc, tout ça doit être révisé. Et ça se fait à travers une démarche participative, des négociations, un dialogue national ou autre. Pour le moment, le président de la République prévoit de faire un dialogue sur Internet avec les jeunes. Ce n'est pas un dialogue, ça. C'est un sondage ou c'est une plateforme où on recueille des avis, ce n'est pas un dialogue.
Le Parlement européen a sorti le carton jaune le mois dernier. Il a adopté le 21 octobre une résolution faisant état de recul démocratique préoccupant en Tunisie. Le Parlement européen qui appelle le président tunisien à rétablir les travaux de l'Assemblée des représentants du peuple et à garantir l'état de droit. Comment vous avez accueilli cette résolution et était-ce le rôle de l'Europe, du Parlement européen, de faire part de cette demande?
C'est sa liberté, hein. Moi, je ne veux pas discuter de la liberté du Parlement européen. Le Parlement européen publie des recommandations même pour d'autres pays, hein, d'autres situations. Donc la Tunisie, le premier partenaire économique, social, politique de la Tunisie, c'est l'Europe. Donc que l'Europe donne son avis, c'est sa liberté. Je n'ai pas à dire quelque chose.
Bon, c'est plus que donner son avis, c'est lancer un appel clair
et
net.
Oui. C'est un appel clair et net, c'est un appel en faveur du respect de la démocratie et de la séparation des pouvoirs et de la Constitution. Donc, je pense que ça, c'est du positif pour la situation de la Tunisie. Bon, c'est une démarche du Parlement, donc certainement que les gouvernements, en tenant compte de tous les processus diplomatiques et du respect de la souveraineté de la Tunisie, donc ils ont fait passer le message. Donc c'est une attitude qui peut aider le retour à la démocratie en Tunisie.
L'actualité en Tunisie, c'est aussi ce mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien président tunisien, Mansef Marzouki, très critique du pouvoir en place. Il s'est dit choqué d'ailleurs par cette décision de la justice tunisienne. Vous-même, vous avez été choqué par cette décision ou non?
Très choqué.
Oui.
Très choqué. Faire un mandat d'amener à l'encontre d'un ancien président de la République et puis avec toute une campagne de dénigrement. Je pense que l'État tunisien s'est déconsidéré en prenant ce genre d'attitude. Autant je ne suis pas d'accord sur les déclarations de M. Marzouki, autant quand même on peut ne pas être d'accord et ne pas avoir recours à ce genre de mesures.
Donc c'est quoi? C'est une forme de dérive de la part du pouvoir tunisien?
On a l'impression que quelqu'un a été piqué à vif. C'est une réaction personnelle, épidermique, impulsive, non réfléchi. C'est pour ça que j'ai dit ce n'est pas sérieux.
La Tunisie qui a repris les négociations avec le Fonds monétaire international, elles avaient été interrompues après ce qui a été qualifié de coup de force le 25 juillet dernier, des négociations en vue d'un programme d'aide apporté à la Tunisie. Vous, docteur Khalil Ezaouia, ancien ministre en Tunisie, président du mouvement État Katol, qu'attendez-vous de ces discussions? En attendez-vous quelque chose?
Le recours au soutien du Fonds monétaire international est devenu actuellement incontournable en Tunisie. Nous avons des difficultés pour boucler l'année budgétaire actuelle et pour l'année d'après. Donc les finances publiques sont en difficulté majeure. Et le recours au FMI nous permet d'avoir de l'argent frais et aussi d'avoir accès à d'autres financements internationaux, puisque c'est un label et c'est une garantie qui nous ouvre les marchés internationaux financiers. Sauf que le FMI demande des réformes structurelles et que l'expérience des 5 ou 6 dernières années du FMI avec les différents gouvernements tunisiens n'a pas été très concluante, puisqu'il y a eu des engagements et des signatures de conventions qui n'ont pas été respectées, c'est-à-dire des réformes sur lesquelles se sont engagés 2 ou 3 gouvernements et qui n'ont pas été exécutées. Donc le FMI est devenu très suspect par rapport à la Tunisie, par rapport à ses capacités de respecter ses engagements. Et on se rappelle qu'avant, le FMI signait juste avec le ministre des Finances. Par la suite, il fallait que ce soit le chef du gouvernement qui s'engage. Et maintenant, ils exigent que ce soit les partenaires sociaux qui s'engagent aussi, et en particulier le GTT. À un certain moment, on parlait du Parlement. Donc, ils voudraient que l'ensemble des intervenants politiques s'engage à respecter les accords avec le FMI. Actuellement, cela ne semble pas évident, parce que d'abord, c'est juste une première rencontre, c'est ce qu'on appelle la révision, une réunion de révision. Ils révisent ce qui a été fait avant. Et le gouvernement n'a pas encore présenté un programme de réforme que le FMI puisse accepter, et notamment en particulier une clause qui est très exigée par le FMI, c'est-à-dire la réduction de la masse salariale de la fonction publique qui est très importante actuellement, et bien sûr réviser aussi tout le système de compensation des prix du carburant, des biens de consommation, de tout ce qui est alimentation et tout. Une révision de ce système de compensation et d'aide aux familles en difficulté.
Vous évoquiez la situation sociale en Tunisie. Des affrontements ont eu lieu ces derniers jours dans la région de Sfax, des affrontements entre des jeunes gens et la police. Il y a eu plusieurs blessés après ces manifestations. Ce qui s'est produit près de Sfax, est-ce révélateur de cette colère qui serait en train de monter en Tunisie, ou considérez-vous qu'il s'agit plutôt d'un événement isolé?
C'est peut-être ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas un événement isolé, parce que Sfax vit, c'est la deuxième ville du pays, c'est une ville économique importante, et elle vit un drame concernant tous ces ordures, parce que la politique, et ça remonte très loin, ça remonte même à la période de Ben Ali, où il n'y a pas eu une politique de la prospection quant au traitement des déchets ménagers. Donc il y a un site à côté de Sfax, dans une petite ville qui s'appelle Aguerb, où c'était un abcès de fixation pour la population. Et ce site devrait se terminer définitivement au mois de décembre dernier. C'est fini, il ne peut plus accepter d'autres ordures. Et il n'y a pas eu, par les gouvernements qui sont passés depuis quelques années, de prévision pour voir où est-ce qu'on peut stocker toutes ces ordures ménagères, ou bien le recycler. Et on a beaucoup tardé à opter vers le recyclage des ordures ménagères. Et voilà, nous sommes arrivés à une situation de blocage, et la population d'Aguerre a porté plainte, la municipalité, et elle a obtenu une décision de justice de fermeture du site. Et donc, si vous voulez, la décision qui a été prise par le président de la République il y a 2 jours, de réouverture du site, c'est une décision qui est contre la décision de justice. Et donc, c'est déjà, il a empiété sur une décision de justice, ce qui est habituellement inacceptable.
Donc, une forme de défiance.
Oui, mais parce qu'il fallait trouver une solution. Donc, ils ont dit, on a réouvert le site pour continuer à mettre les ordures, en attendant la solution définitive. Mais comme il n'y a pas eu d'explication, directement, la population s'est révoltée. S'est révolté, et il semblerait qu'il y ait eu un mort, bon, je ne sais pas, le ministère de l'Intérieur dit que c'est un décès.
A démenti et affirmé que cette personne ne faisait pas partie des manifestants.
Et d'autres disent que il y a eu une utilisation abusive de gaz lacrymogène pour bloquer les manifestants, et on a vu les images qui étaient des images quand même évidentes d'utilisation excessive de gaz lacrymogène, et c'est peut-être, donc, il va y avoir une autopsie, et bon, que les médecins vont dire de quoi est mort ce monsieur, qui n'a pas de maladie par ailleurs, mais bon, ça...
Vous attendez bien entendu des éclaircissements.
Des éclaircissements, mais ce qui nous tracasse, c'est que le communiqué du ministère de l'Intérieur était catégorique. Et bon, les gens doutent très fort. Moi, les sections de notre parti à Sfax disent que probablement c'est dû au gaz lacrymogène. Donc, bon, maintenant, on saura après l'autopsie. Donc, voilà, c'est une situation révélatrice de la crise. C'est pour ça qu'on a appelé le président de la République à ce qu'il soit beaucoup plus mesuré dans son attitude, parce que la Tunisie, il y a beaucoup de problèmes, énormément de problèmes, et qui ne sont pas toujours dus au gouvernement qui vient de quitter ou à celui d'avant. C'est une accumulation historique et il faudrait les traiter avec beaucoup de pragmatisme et ne pas en faire un abcès un sujet de conflit avec l'opposition, parce que des déclarations du président de la République laissaient entendre que c'était les opposants à lui qui avaient bloqué le site, alors que ce n'est pas vrai. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai à Sfax. Et lui-même, lorsqu'il a fait sa campagne électorale, il est allé à cette petite ville d'Aghareb et il leur a dit que ce site-là devrait être fermé. Donc les contraintes de la politique, c'est... Il faudrait quand même qu'il cesse d'attaquer d'une manière effrontée ses opposants. Hier, il y a un groupe de citoyens qui a créé ce qu'on appelle citoyens contre le coup d'État, qui avait programmé de faire une conférence de presse. La conférence de presse a été interdite. Ils l'ont faite dans la rue. Et ça nous rappelle ça nous rappelle Ben Ali, tout simplement. C'est comme ça qu'il faisait, hein.
Docteur Ezaouia, vous êtes donc ancien ministre, président d'État catal, vous êtes aussi médecin, vous étiez au cœur de la crise sanitaire, notamment l'été dernier, cette crise qui a été particulièrement lourde en Tunisie. Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui de la situation sanitaire en Tunisie, plusieurs mois après ce que le pays a dû et a réussi à traverser?
Nous avons traversé un orage mois de juillet, juin, juillet, qui s'est soldé par aux alentours de 25 000 décès. Et il y a eu un retard à la vaccination, des difficultés de prise en charge des malades, on a eu des pénuries d'oxygène, c'était dramatique. Les malades étaient dans le hall d'accueil des hôpitaux, il n'y avait pas d'oxygène. Même certains services de réanimation sont arrivés à calculer combien d'heures d'oxygène il restait en réserve, une demi-heure, une heure, avec... Bon, heureusement qu'il y a eu, la diplomatie tunisienne a bougé pour qu'on ait un soutien et que les pays amis nous ont fortement soutenus. Et puis on a eu l'arrivée des vaccins. Actuellement, la vaccination a bien marché, on va dire. On a à peu près 60% des plus de 18 ans qui sont vaccinés deux fois. Et sur l'ensemble de la population, on est à 40% à peu près.
La Tunisie qui dispose aujourd'hui d'un pass sanitaire, est-il comparable au pass qui existe en France?
Il est comparable, il est même plus dur. Il entrera en vigueur au mois de décembre, le 20 ou le 22 décembre, je pense. Sauf que il va être difficile à appliquer. D'abord, comment il a été fait? Toujours selon le même processus jupitérien, puisque ni le comité scientifique n'a pas été consulté, ni même le comité d'éthique nationale et d'éthique médicale nationale n'a été consulté. Et donc, un texte qui est sorti et qui sera, sur certains plans, difficile à appliquer. Je vais vous donner un exemple. Une grande partie de nos retraités perçoivent leur mandat de leur retraite au niveau de la poste. Et dans le texte, il est dit que celui qui n'a pas de passe sanitaire ne peut pas accéder à la poste, au service public en général et à la poste aussi. Il ne peut accéder qu'aux services médicaux lorsqu'il est malade. Sinon, tous les services publics, il ne peut y accéder. Donc, pour pouvoir percevoir sa retraite, et chez nous, les gens perçoivent, retirent toute la somme au début du mois. Or, c'est personnel. Il ne peut pas déléguer.
Vous dites que pour ces personnes, ça revient à une obligation vaccinale.
C'est une obligation vaccinale et ça va créer un problème. C'est-à-dire qu'on va imposer une vaccination, mais d'emblée, ce sera difficile à appliquer. Et puis, ils ne peuvent pas accéder au service, le service de l'état civil pour retirer un extrait de naissance. Et tout ça va être très compliqué.
Vous êtes médecin, vous êtes opposé à la vaccination obligatoire. Vous seriez opposé à cette vaccination obligatoire? Vous savez que ça fait débat également en France.
Ça touche à la liberté individuelle quand même. Il ne faut pas que l'obligation vaccinale provoque une crise sociale. Nous ne sommes pas dans la même sociologie qu'en France. En Tunisie, c'est très particulier. Le citoyen tunisien est obligé de se déplacer pour les services publics pour vivre. Et donc ça, on ne peut pas obliger les gens à se faire vacciner pour pouvoir accéder aux services publics. Et ça, c'est difficile. Donc ça pose vraiment intellectuellement, moi, ça me dérange. Personnellement, ça me dérange de rendre la vaccination obligatoire.
Merci, docteur Khalil Ezaouia.
Merci pour l'invitation.
Du mouvement État Catholique en Tunisie. Vous êtes ancien ministre et vous êtes aujourd'hui médecin dans un hôpital près de Tunis. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet entretien et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.